L'été des possibles.
Qu'est-ce qui serait possible ?
De brancher sa radio et de mettre 93.7 sur RVM.
C'est possible ! On peut le faire !
Ouais !
C'est l'été des possibles.
Bonjour, vous êtes bien sur RVM 93.7, troisième émission de l'été des possibles qui est ce soir à Auroui. Avant de commencer, j'aimerais vous donner la recette pour réaliser cette émission. Cela demande de la préparation. Tout d'abord, au moins deux tables, des chaises et des barnums, car nous sommes en extérieur, afin d'installer notre batterie de cuisine hertzienne à l'abri du mauvais temps. Bien sûr, sous le contrôle de notre chef cuistot, Luc, accompagné de la seconde, Frédéric. Rajoutez à cela notre sommelier, André, qui est aussi à l'écoute de la cuisine. Dominique à la réservation des ondes pour vous proposer des mets de qualité sonore. Catherine pour l'accueil en dégustation musicale. Rajoutons quelques épices avec la troupe des bodegistes, Frédéric et Gontran. Sans oublier notre chef de rang, à côté de moi, Hervé, pour cuisiner nos invités. Tout cela en direct. Alors voyons voir si la recette va prendre ce soir. Avant de commencer...
Avant de commencer, qu'est-ce que tu fais là-dedans, Fred ?
Moi, je goûte, je suis le goûteur, voilà.
D'accord.
Je déguste, voilà. Je tiens à remercier aussi M. et Mme Comer, donc Philippe et Frédéric, qui nous ont permis de réaliser cette émission en nous fournissant le principal.
La liaison.
Voilà. Ou le jus.
La liaison et le courant. Oui, le jus, c'est mieux pour la cuisine.
Exact. Hervé, je te laisse accueillir notre premier invité.
Alors, le premier invité, c'est Marc Lafont, qui est président de la MJC et qui est surtout un personnage d'Auroui, qui connaît bien Auroui et qui est intéressé par la culture, la vie, l'histoire d'Auroui. Donc Auroui, c'est 2000 ans d'histoire ?
Auroui, c'est 2000 ans d'histoire, oui, tout à fait, que j'ai découvert en 25 ans. Je suis très content, je vous remercie de votre invitation et de vous être arrêté à Auroui. Je suis très content d'être le plat de résistance, ou l'un des 3 ou 4 plats de résistance, en tout cas. Oui, Auroui est un village qui est plus qu'intéressant, en fait, que j'ai découvert petit à petit. Mais Auroui, ça fait 2000 ans d'histoire et d'histoire qui se bouscule, je dirais, par les événements, qui se bouscule également par les sites, puisque en fait, on a un site qui est très, très particulier, qui est le site de Champlieu, qui est le plus ancien d'Auroui. Ce site date de l'époque, en effet, des Romains ou des Gallo-Romains, puisque il date du IIe siècle, du moins ce qu'on en a découvert. Et pratiquement 20 siècles plus tard, ce site de Champlieu a accueilli, au cours de la guerre de 14-18, donc en 1917, a accueilli les premiers chars français, les chars du général Étienne, qui étaient installés au château d'Auroui. Et ces chars qui ont permis de gagner la guerre plus tard se sont entraînés donc à Champlieu, à côté des ruines gallo-romaines, et peut-être même au-dessus d'une nécropole gallo-romaine.
Alors, Champlieu, on peut dire que ça a été, pas découvert, mais ça a été mis en valeur par Napoléon III, entre autres.
Ça a été même découvert à l'époque de Napoléon III, en effet. Et Napoléon III, qui, comme vous le savez, résidait souvent à Compiègne, a eu, pour l'aider dans sa découverte, a eu deux personnages particulièrement importants et connus pour des tas d'autres raisons. Le premier, c'est Viollet-le-Duc, qui, d'une part, s'est intéressé à Pierrefonds, que Napoléon III lui a demandé de restaurer, et qu'en fait, il a restauré à la Viollet-le-Duc, c'est-à-dire en le restaurant, en imaginant comment il devait être. Et Viollet-le-Duc s'est donc occupé de Champlieu avec un autre personnage important, et important dans des tas de domaines, qui était Prosper Mérimée. Et avec une qualité absolument extraordinaire qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est la qualité d'une administration plus que performante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Napoléon III et Prosper Mérimée se sont intéressés à Champlieu, en 1851, si ma mémoire est bonne, un mois après qu'ils soient intéressés à Champlieu, le site était classé comme site historique. Donc. Et les fouilles ont commencé quelques temps après. Et la majorité des fouilles a été financée sur la cassette personnelle de l'empereur.
Là, je vais faire un petit aparté parce que, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'une fois de plus, on est en extérieur, sur la place du village d'Auroui. Donc, c'est peut-être, vous entendez peut-être passer les voitures, mais enfin, voilà. C'est bien que la radio soit là, quoi.
Que fait le garde champêtre d'Orouy, il n'arrête pas les voitures.
Non, c'est parce qu'il n'y a pas de garde champêtre.
Ah ben voilà.
Donc, pour revenir à l'histoire d'Orouy, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il y a le château, il y a l'église Saint-Rémy,
Tout à fait. Alors, donc, on a parlé un petit peu des gallo-romains, là. Ce qui est intéressant, si vous voulez, sur ce site de Chanlieu, c'est tout ce qui peut en rester, ce qui a été mis en valeur depuis Napoléon III, parce qu'il y a eu des fouilles qui se sont poursuivies jusque dans les années 1970. Et en fait, c'est un site qui est absolument extraordinaire dans la mesure où restent en place les ruines d'un temple, un théâtre qui contenait quand même une capacité de 3 à 4 000 personnes, et des thermes.
Voilà. Les trois T.
Ce qui veut dire qu'en fait, ce site était situé sur une voie romaine qui allait de Senlis à Soissons, entre autres, et qui continuait après, qui est devenue la chaussée Brunehaut par la suite au Moyen-Âge. Et en fait, ça veut dire qu'il y avait au moins une garnison romaine, parce que pour remplir un théâtre de 3000 places, il fallait qu'il y ait le public, il fallait qu'il y ait un besoin. Et il y avait en effet le besoin.
D'accord. Et donc il y avait du monde à cette époque-là.
Il y avait beaucoup de monde à cette époque-là, à Chanlieu, en effet.
Et alors, Orouy s'est développé comment au fil des siècles ?
Alors, Orouy, c'est autre chose. Alors, Orouy s'est développé depuis fort longtemps aussi, mais on n'en a pas évidemment les traces. Alors d'abord, un petit peu d'étymologie. Orouy, c'est un oratorium. Ça s'appelle comme ça. Les habitants d'Orouy s'appellent donc encore aujourd'hui les oratoriens, avec une petite anecdote au passage. Ils s'appellent les oratoriens, mais dans la vallée, ils ont un surnom.
Ah.
Ils sont surnommés les gros genoux.
Ah.
Et ils sont surnommés les gros genoux parce que derrière chez moi, à côté de ce qui était à l'époque le jeu d'arc, il y a un chemin de croix. Et tous les ans, les habitants d'Orouy faisaient le chemin de croix à genoux.
À genoux, comme ça se fait.
C'est une tradition qui a duré un bon moment. Il reste quelques vestiges de ce chemin de croix et le curé de la vallée de l'automne est en train d'essayer de rassembler des fonds, je crois, pour en restaurer une partie.
D'accord. Donc, on a aussi le château d'Orouy qui est important. Il date de quelle époque ?
On a le château d'Orouy. Alors, le château d'Orouy, c'est un château qui est très, comment dirais-je, pas bâtard, si vous voulez, mais qui a été remanié sans arrêt depuis le XIIe siècle. Qui a vécu donc des remaniements différents et je ne vous les raconterai pas parce qu'il y en a beaucoup trop et c'est un vrai puzzle. Ce qui est important, c'est les personnages qu'il a accueillis à un moment donné.
La première construction du château.
La première construction du château, c'est le XIIIe siècle.
D'accord.
Et après ça, donc des remaniements pratiquement constants. Je ne sais pas exactement pourquoi et pour quelle raison. Je n'ai pas la liste de tous les propriétaires.
Ça
a changé énormément de propriétaires. Et c'est arrivé à un moment quand même. On a une famille qui s'est installée dans la vallée, qui était la famille Doria. Les Doria étant en fait des armateurs génois. Une branche de la famille s'est installée dans la région, dans la vallée. On a des traces de cette famille à Brasseuse à un moment donné. Et les Doria s'installent apparemment au début du XVe siècle, en 1400 dans la région, et leur blason figure donc dans l'église à ce moment-là. Mais ensuite de ça, ils vont à Brasseuse et ils réapparaissent en fait à Orouy en 1851. Le comte Doria s'installe à Orouy. En fait, il épouse la fille des propriétaires et il s'installe dans le château de ses beaux-parents.
D'accord.
Donc, ensuite de ça, il va être élu maire. Il va rester maire de Orouy pendant 34 ans jusqu'à sa mort.
Et c'était un mécène, d'après ce que j'ai compris.
C'était un mécène. C'était un mécène.
Qui a protégé les impressionnistes et tout.
Tout à fait. C'était un passionné, entre autres, de peinture. Et il a en effet accueilli un certain nombre d'impressionnistes et de pré-impressionnistes, puisque Millet est venu ici. Et il avait une collection de tableaux absolument, absolument importante. Et le comte Doria, en fait, est propriétaire du château jusqu'à une date récente, jusqu'il y a une quinzaine d'années environ. Je l'ai connu propriétaire du château, qu'il a ensuite cédé à la famille d'Ormesson, qui était une famille alliée aux Doria.
C'est la famille de Saint-Fargeau ? D'Ormesson de Saint-Fargeau ?
Alors c'est une autre branche de la famille d'Ormesson de Saint-Fargeau, mais c'est en effet la même famille, oui, bien
d'accord.
sûr. Mais enfin, les Doria avaient des cousins, les d'Ormesson aussi. Le cousin le plus célèbre des Doria étant en fait Andrea Doria, qui était donc armateur génois, mais qui a été, amiral
de la flotte pontificale à la bataille de Lépante en 1527, où il a vaincu les infidèles turcs, qui étaient alliés avec François Ier à l'époque. Aussi bizarre que ça puisse paraître, François Ier était contre la flotte pontificale avec les Turcs. Et ils ont donc subi une belle défaite que leur a administrée Andrea Doria. Et la famille Doria est connue pour autre chose encore. Là, on quitte un petit peu Orui, bien sûr. Mais peut-être certaines personnes qui sont ici s'en souviennent-elles, c'est que le nom d'Andrea Doria est associé à un naufrage qui a eu lieu en 1956 au large de New York. L'Andrea Doria, qui était un bateau donc, de luxe italien, a été éperonné par un bateau suédois qui s'appelait le Stockholm. Heureusement, le Stockholm était là, donc a recueilli une partie des passagers de l'équipage, et le paquebot Île-de-France, qui arrivait derrière l'Andrea Doria, a également recueilli des gens. Il n'y a eu, si j'ose dire, que 170 morts.
Donc pour continuer,
on est loin du Titanic.
Pour continuer avec ce château, il a continué
Alors, ce château
vie,
a continué à vivre.
Il est toujours privé.
Il est toujours privé aujourd'hui. Il est toujours. On peut visiter les jardins. Il est d'accord. Toujours privé. Il appartient à une famille privée actuellement.
Alors, il a son importance aussi pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, il a son importance pendant la Première Guerre mondiale, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a été le quartier général du général Étienne, qui était un général polytechnicien, s'il vous plaît, qui a compris et qui a été un des premiers à comprendre l'importance que pouvaient avoir les chars d'assaut, qui a donc commandé les premiers chars d'assaut français, qui étaient des chars Renault, qui l'a fait s'entraîner donc sur le plateau de Chanlieu, à côté des ruines. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire donc, que vous avez 20 siècles d'histoire.
C'est là qu'on a les 2000 ans d'histoire. Quoi.
Sur 100 mètres carrés, vous avez des 2000 ans d'histoire sur 100 mètres, pratiquement.
D'accord.
Et donc, les chars se sont entraînés là avant d'aller combattre les Allemands et d'amener, de participer à la victoire et donc, finalement, à l'armistice de 1918.
Là, il y avait juste de l'entraînement, quoi.
Il y avait juste de l'entraînement.
Les chars sortaient des usines Renault.
Ils sortaient des usines Renault. Ils étaient en fait les équipages étaient entraînés à Chanlieu et restent à Chanlieu. D'ailleurs, cachés sous les arbres, restent les bassins qui contenaient l'eau qui permettait de refroidir les moteurs, parce qu'en fait, les chars consommaient largement autant d'eau que d'essence.
D'accord. On peut parler aussi de l'église de Saint-Rémy.
Alors l'église de Saint-Rémy, oui, c'est quelque chose de formidable. Formidable parce que, d'une part, elle est comme toutes les églises de la région, elle remonte au XIIe siècle pour son clocher-porche, qui ressemble beaucoup à celui de Morienval. Mmh. Et d'autre part, ce qu'elle a surtout, et c'est la raison pour laquelle elle est particulièrement connue, c'est la qualité et la beauté de ses vitraux.
Donc, Fred ?
Oui, moi j'ai vu des photos vraiment formidables.
Ah ben, je vous invite à venir la visiter. Je vous la ferai visiter avec grand plaisir.
Elle est ouverte au public tout le temps
ou... Elle n'est pas ouverte au public, mais le prêtre a eu la gentillesse de me confier la clé. Donc vous serez mes invités et mes bienvenus quand vous voudrez.
Alors ceux qui veulent, ils vont chez Marc Lafont.
Tout à fait.
Qui fait une visite guidée de l'église.
Absolument. Et je peux vous dire que je me fais un plaisir formidable à faire ça et avoir découvert ça. J'ai le temps d'une petite anecdote.
Allez.
À force de chercher des choses, on arrive à trouver des choses bizarres quand même. Cette église, les vitraux sont classés. Et dans ce classement, vous trouvez en fait l'un des vitraux qui représente un Saint-Charles, dont on me dit qu'il s'appelle Saint-Charles-Borromée, et en même temps, les monuments historiques nous disent que les vitraux datent de 1542. Mmh. J'ai donc été voir qui était Saint-Charles-Borromée. Il est né en 1538. Comment peut-il être représenté en 1542, adulte, et avec une belle auréole de saint derrière la tête?
Ah oui.
Surtout qu'il a été sanctifié, il a été canonisé en 1610. Mm-hmm. Donc, apparemment, c'est pas lui. Donc j'ai un petit peu cherché, j'ai trouvé un autre Charles.
D'accord.
Et je suis très content de ça. Et maintenant, je vais contacter les monuments historiques et je vais aller les voir et je vais leur en parler quand même un petit peu parce que je crois qu'il faut qu'ils mettent leurs choses à jour. Peut-être que je me trompe sur le véritable personnage représenté, mais j'ai de bonnes raisons de croire que c'est lui.
Eh ben, merci, Marc. C'est bien d'avoir quelqu'un qui est passionné par son village.
Ben, quand on découvre quelque chose, si vous voulez, qu'on creuse un petit peu, qu'on se pose des questions et qu'on trouve des réponses, ben, on a envie de creuser un petit peu plus profond. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Et puis, en effet, c'est bien agréable de trouver les réponses.
Voilà, ça c'était le côté histoire de Rouy, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec, on va inviter la présidente du comité des fêtes. Voilà. On va lui demander de venir reprendre la place de Marc. Merci Marc Lafont. Donc on
merci
va recevoir Martine Grénaud. Voilà, et donc on va mettre...
C'est l'été des possibles.
Attention.
Monsieur Lafont s'en va avec le casque, vous nous voilà bien. On va avoir un budget matériel qui va être énorme. Hein.
Il n'est pas partagé,
il ne veut pas vous le prêter. Hein, voilà. Donc Martine Grénaud qui va s'installer, donc qui est la présidente du comité des fêtes de Rouy. Alors, on va attendre, on va mettre, bien sûr, les barrières sanitaires nous obligent à avoir quelques petites précautions à mettre en place. Donc c'est Fred, notre collègue, qui est la seconde de notre technicien, qui met le film sur les micros. Voilà, changement de film.
Voilà, comme ça, on nettoie les casques aussi
bien,
en même temps.
Voilà, hein. Et le casque est nettoyé aussi. Donc tout voilà. Est fait pour qu'on n'ait pas de soucis avec Martine, qu'elle ne nous dise pas dans 15 jours qu'elle a chopé le Covid-19. Hein.
Voilà.
Ou la Covid-19. Hein, voilà.
C'est la partie des personnes à risque.
Ah bon, alors ça va. Allez, trêve de plaisanterie. Donc Martine, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Oui.
Et donc je voulais savoir, c'est quoi la recette pour bien vivre au Rouy alors?
Ben, pour bien vivre au Rouy, je pense qu'il faut faire partie de la vie de village. Donc, c'est ce que j'ai fait, si vous voulez. Moi, je suis arrivée ici en 81. Je travaillais encore à l'époque. Donc, quand je me suis retrouvée en retraite, je me suis dit, il faut que je continue. J'ai plus les enfants pour communiquer avec les gens et tout. Donc, quand je travaillais, je faisais partie du tir à l'arc. Il y avait un jeu d'arc ici qui était magnifique à l'époque. Et puis donc, j'ai postulé au comité des fêtes. Et puis, chemin faisant, il y a eu une année où personne ne voulait se présenter comme présidente. Donc, j'ai dit, je me présente. Mais ça n'a rien changé. J'ai continué à faire toutes les choses qu'il y avait à faire au niveau du comité des fêtes et à faire évoluer les choses.
Et je vois que vous êtes accompagnée. Alors, vous n'êtes pas venue seule.
Non. Donc, actuellement, donc, je vous présente la secrétaire du comité des fêtes, qui est Isabelle. Isabelle
Bonjour,
Charles.
Isabelle.
Et donc, c'est elle qui nous fait tous les comptes rendus et qui se charge des fois de rechercher si on fait des voyages, si on fait des soirées à thème et des choses comme ça.
Voilà. Ok. Alors, on a parlé d'histoire avec Marc Lafont, mais on n'a pas parlé d'histoire contemporaine. Or, oui, vous pouvez nous présenter votre village? Combien d'habitants? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qui se passe à Orouy?
Si vous voulez, nous, c'est pour ça qu'on a essayé de relancer le comité des fêtes, parce que quand moi je suis arrivée en 81, il y avait encore une compagnie d'arc, il y avait une musique, il y avait une association de chasse. Il y avait la sauvegarde de l'église, il y avait certainement aussi un genre comité des fêtes aussi comme actuellement. Mais tout ça, si vous voulez, avec les années, les gens vont beaucoup plus travailler sur Paris qu'avant. Et de ce fait, si vous voulez, les gens, c'est devenu presque une ville dortoir. Hein, oui. Donc, si vous voulez, le rôle du comité, c'est un petit peu de réveiller tout ça et de faire que les gens continuent à communiquer entre eux, surtout pour les gens qui n'ont plus d'enfants d'âge scolaire, qui ne sont plus à la maternelle, ou donc qui peuvent se rencontrer, discuter entre eux quand ils vont chercher leurs enfants. Donc, le besoin s'est fait nettement sentir. Donc, c'est pour ça que ce comité a eu raison d'exister, si vous voulez. Donc là, je vais vous parler plus de ce qu'on fait actuellement pour essayer de
les gens se mobilisent
actuellement.
Sûr.
Donc ce qu'on fait déjà, tous les 15 jours, tous les 15 jours, le jeudi après-midi, on fait une activité loisir. Donc ça, c'est plus fatalement pour les personnes qui sont retraitées ou qui ne travaillent pas. Donc, dans ces activités loisirs, ça peut être les jeux, ça peut être la peinture, ça peut être la couture, ça peut être la cuisine. Avec le Covid, on a vu que ça pouvait être la couture, mais avec les machines à coudre, puisqu'on a fait aussi des masques les après-midi. Et donc, de ce fait, après, ce qu'on fait, donc on démarre toutes les choses où les gens peuvent venir voir. En février, on fait ce qu'on appelle une exposition qui s'appelle les talents cachés, où les gens peuvent venir exposer, on va dire, leur chef-d'œuvre, si vous voulez. C'est-à-dire ou de la peinture, ou du tricot, ou de la fabrication de bijoux. Et donc, les gens viennent le dimanche après-midi, et on a beaucoup de gens qui viennent, s'il fait beau, voir ces expositions-là. Après, au moment de Pâques, on fait ce qu'on appelle une chasse aux œufs.
Alors, s'il vous plaît.
Oui.
Vous restez devant le micro.
Oui.
Sinon, on ne vous entend plus.
Oui, c'est vrai, excusez-moi.
On va vous gronder, hein.
Ah, ben non, mais je ne voudrais pas quand même en arriver à avoir une fessée, quand même.
Ça va. On est partageurs, mais pas jusqu'à ce point-là. Hein,
Isabelle, tu veux prendre le relais, si tu veux
Oui, je veux Vas-y. Bien. Alors, au moment de Pâques, on fait la chasse aux œufs. On organise ça généralement sur le site de Champlieu. Okay. Ce qui permet aussi aux enfants de découvrir le site. On organise également une randonnée pédestre. Excusez-moi.
Non, non, c'est pas vous. Hein.
C'est pas moi.
On va trouver le coupable, vous inquiétez pas.
À peu près à la même période, on organise également une randonnée pédestre autour de la ville de Rouy.
Donc là, il y a beaucoup de participation. Voilà. Il y a à peu près au moins 90 personnes qui viennent pour la randonnée pédestre. Il y a deux parcours.
Allez-y.
Il y a deux parcours, un parcours court de 7 à 8 km et un parcours de 14 km avec une petite collation entre deux pour les gens vers 7-8 km où ils ont une collation. Après, il y a la fête du voisinage. Bon, ben là, c'est des gens, on leur demande de ramener ce qu'ils veulent, c'est-à-dire bon, ben, ou une entrée ou un plat de résistance. Et ça se passe, s'il fait beau, ça se place sur la place du village, sinon ça se place dans la salle des fêtes. Donc, il y a une très bonne participation. Le comité des fêtes offre l'apéritif et puis les gâteaux apéritifs. Et puis après, les gens, ben, on met tous les plats ensemble et les gens se servent comme ils veulent sur ce qu'il y a sur la grande table.
Très bien. Alors, quelles sont les conditions pour faire partie du comité des fêtes alors,
Il n'y a aucune condition d'entrée. Tout le monde est accepté.
De la bonne volonté.
Oui, c'est déjà pas mal.
Un peu de disponibilité.
Oui.
Et oui, je crois que la volonté de faire vivre le village. Et,
puis le plaisir d'être dans un groupe plutôt sympa, voilà, je pense. Oui. C'est ça aussi.
Participer à quelque chose de collectif. Et puis le plaisir aussi d'attirer, de faire connaissance avec les gens du village.
Oui.
C'est difficile de faire vivre un village. Que ça ne devienne pas un village dortoir.
C'est très difficile.
C'est très difficile, oui. faut s'impliquer, faut beaucoup s'impliquer.
C'est très difficile de faire sortir. C'est vrai qu'on a tendance à voir toujours les mêmes personnes. Ouais. Bon, là, y a les nouveaux arrivants, je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts que ceux qui sont déjà
là depuis longtemps.
On va voir les anciens du temps où il y avait beaucoup d'activités. Moi, je suis arrivée ici en 81. Il y avait beaucoup d'activités dans le village. Les gens participaient beaucoup. Donc, ce groupe de personnes qui a, entre 65 et 80 ans, on les voit régulièrement. Et puis, viennent se greffer dessus tous les gens qui arrivent, qui sont contents de voir qu'un petit village, toutes les choses que fait ce petit village. Et ils sont très satisfaits. Ils viennent à toutes les réunions, ceux-là.
Donc, ça veut dire que la population se rajeunit
Oui. Il y a eu beaucoup d'arrivants. Donc là, c'est un village qui a à peu près 570 habitants, je crois. Mmh. Et normalement, il est prévu, d'après la révision, maintenant ça ne s'appelle plus un poste, mais ça s'appelle
un PLU.
Je crois qu'il y aura à peu près 70 personnes en plus maximum. Quoi, voilà.
Donc on précise PLU, plan local d'urbanisme. Mmh. Voilà,
voilà
on
c'est ça.
Les choses. Mmh. Et vous avez des commerces encore à Rouy?
Non, il n'y en a plus.
Il y a peut-être un camion qui passe encore, qui doit être
un camion. Il y a un primeur qui passe.
Okay. Oui, c'est ça, oui. Et puis il y a un camion frigorifique aussi. Sinon, il n'y a pas. Il y a un dépôt de pain. Il y a un dépôt de pain
la permanence de la poste.
Voilà.
On avait reçu le boulanger de Crépy qui fait cette,
Il fait cette tournée.
Ce dépôt de pain, voilà.
Et puis par le regroupement scolaire, on a une cantine dans ce qu'on appelle, nous, l'ancien bâtiment en bas qui était à Cramif, c'est-à-dire c'était le CE de la Sécurité sociale au départ.
Très bien.
Donc cette année, il n'y a pas eu de feu d'artifice, évidemment.
Ah, Cette année, il n'y a pas eu d'activité du tout.
Nous, on s'arrête une activité.
Non, aucune activité.
Cette année,
on devait innover, on devait faire la chasse aux œufs dans le château d'Orouy. On était très contents.
Ah, oui.
On avait demandé à la dame qui habite le château si elle voulait bien. Elle était enchantée de nous accueillir dans son château. Et nous aussi, on était enchantés pour les gosses.
Et patatras.
De chance, ça ne s'est pas fait.
Est-ce que vous avez une vision pour savoir quand est-ce que vous pourrez reprendre des activités? Non, il n'y a pas de.
Alors, pour le moment, on n'a pas de vision. Justement, on est très embêtés parce que bon, on n'a pas fait d'assemblée générale, on n'a pas fait de réunion, tout ça. Mais on va être obligé d'en faire une début septembre. Enfin bon, nous, on va se réunir en tant que bureau, mais on va en faire une le 8 septembre parce que théoriquement. Cette année, on fait les journées du patrimoine. C'est-à-dire, les journées du patrimoine, c'est à Champlieu. Et nous, en tant que comité des fêtes, on les fait tous les deux ans. Hein? Donc là, j'ai déjà été contactée par elle depuis le mois de juin, juillet, parce que c'est nous qui faisons les plateaux repas pour les gens qui font le spectacle et tout ça. Bon, et puis qui les hébergeons, enfin bon, et puis après, on fait, tous les gens qui viennent peuvent manger sur place et tout ça. Donc c'est à nous cette année de le faire. Mais si ça a lieu. Et ça, on n'en sait rien pour l'instant.
Ouais, ça, malheureusement.
Personne mais ne vous sait. Vous préparez.
Voilà. Ben, on est prêt de toute façon. On est ouvert de toute façon. C'est un grand moment, si vous voulez. Ouais. Champlieu, c'est vraiment magnifique.
Le jour où ça va reprendre, ça va être la fiesta, alors,
ah oui. Ah oui, c'est sûr. Hein.
on va faire sortir tout le monde de chez soi.
Voilà.
Donc, il fait bon vivre à Rouille, alors. Hein.
Ben, de toute façon, il fait bon vivre à Rouille, dans la mesure où les gens veulent bien participer aux choses que l'on fait, si vous voulez. On fait aussi... une fois par an, on fait ou un voyage ou un repas. Et là, je pense que si le Covid il nous laisse un petit peu tranquille, octobre ou novembre, on va faire au moins un repas avec les gens du village, comme on avait fait une fois. On avait fait un karaoké où il y avait 87 personnes qui étaient venues quand même. Donc, c'est quand même bien pour un petit village de oui. 570 habitants. Et l'année dernière, on avait fait un voyage à Disney. On avait été voir la légende de Buffalo Bill. Et là, on avait au moins 54 personnes qui étaient venues voir ce spectacle.
Bien. Bravo, c'est bien. Voilà. Eh bien, merci d'être intervenu dans l'émission, mesdames.
De rien.
Merci
à vous.
À vous
de nous avoir.
On vous applaudit, tiens, pour la peine. Voilà.
Merci.
C'est l'été des possibles.
Alors, on va accueillir des musiciens. Alors, il y a un musicien qui apparemment a vécu à Orouy pendant plusieurs années. Il va nous raconter ça après. Mais d'abord, ils vont se présenter à nous, ces grands. Trois hommes, trois grands garçons. Donc, il y a Martial, il y a Michel et il y a Alix. On peut dire que c'est la MMA, voilà. Est-ce que c'est une mutuelle qui est...
Une bonne voilà, assurance.
Je ne sais pas, voilà, on va voir ça. Est-ce que c'est une assurance de qualité? On va voir. Alors, bien sûr, là, un petit changement de plateau. Donc, on a Catherine et Fred qui s'activent avec Gontran qui vient donner un petit coup de main. C'est formidable. On a une équipe logistique incroyable autour de nous. Hervé, pendant ce temps-là, bah, il se décontracte. Hein, voilà. Hein. Hervé nous dit que tu vas aux toilettes, c'est ça? D'accord.
C'est ça, ouais. C'est ça.
On ne vous cache rien à la radio. Hein. Tout est en direct. Hein, donc voilà.
Je vais voir les invités. Moi.
Voilà. Donc, Michel à la guitare, Martial au chant et Alix aux percussions. Messieurs, si vous êtes prêts, on vous laisse quelques minutes pour nous faire découvrir votre univers musical. Allez.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. Et toujours en été, il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Il y a plein de chiens. Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. et toujours endetté. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre. On le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le sud, c'était vraiment bien. On aurait pu vivre plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Merci messieurs. On vous retrouve tout à l'heure.
Allez.
Hein, merci à vous. Donc, vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est l'émission L'été des possibles qui est ce soir à Orouy. Et nous avons notre troisième invitée. Donc, on va la présenter. Madame Sandrine Brun, directrice de l'EHPAD résidence de la Valouise d'Orouy. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris un peu de temps pour venir nous voir. Je sais que vous êtes très occupée. Hein, donc, voilà. Oui. Hervé, je te laisse préparer ta batterie de questions.
Oui, c'est un établissement important entre la route d'Orouy et Béthisy.
Voilà, c'est un EHPAD privé, donc à la sortie d'Orouy, direction Béthisy. Mais ça n'a pas toujours été donc un EHPAD, puisque auparavant, il y avait donc ce qu'on appelait la baraque. C'était un endroit où tous les anciens de la vallée se réunissaient les week-ends pour boire un verre, danser. Et pourquoi pas connaître leur future épouse, puisque nous avons beaucoup de couples qui se sont rencontrés donc à la baraque.
Oui. Cette agence matrimoniale aussi, alors.
Enfin, c'était la baraque, hein. Moi, je n'étais pas là.
C'était un restaurant et une guinguette, quoi.
Voilà, c'était une petite guinguette, donc très sympathique. Les gens connaissent très bien dans la région. Donc voilà. Et nous avons des résidents qui donc sont accueillis dans notre EHPAD et qui se sont connus sur ce site-là en tant que guinguette. Ah, oui. Donc par la suite, ça a fermé ses portes. Ça a été racheté pour faire un début d'hôtel, hôtellerie, restauration. Les premiers murs se sont montés. Il y a eu, je crois, des problèmes. Donc c'est resté des années en friche. Et puis après, un monsieur est arrivé avec un grand projet. Donc, on va quand même le citer, puisque c'est quand même le maître des lieux, donc monsieur David Assouni, qui est propriétaire des lieux et qui a racheté cette parcelle avec les quelques murs et a décidé d'ouvrir, donc de finir la construction et d'ouvrir donc un EHPAD dans la commune. Ce qui a permis effectivement d'être un pôle un peu d'emploi aussi pour les personnes qui habitent sur Orouy. Et donc on accueille au total 69 résidents.
Donc un EHPAD, ce n'est pas une maison de retraite.
Alors, avant, on appelait maison de retraite, effectivement, tous les établissements comme le nôtre. Or, il y a eu effectivement des changements, une nouvelle réglementation, puisque les maisons de retraite devaient obligatoirement signer une convention tripartite avec le conseil départemental, à l'époque conseil général, et l'agence régionale santé, donc Picardie, ce qu'on a fait en 2006. Donc il y a eu cette signature de convention tripartite avec notre établissement. Et je suis arrivée donc à la Valouise au moment de la signature, donc en novembre 2006. Donc ça va faire 14 ans que je suis sur les lieux en tant que directrice.
Donc vous recevez des gens qui sont valides et des non-valides, quoi, c'est ça?
Voilà.
Il y a un service médical en plus, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que l'EHPAD, ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le D, c'est pour dépendantes. Mmh. Donc on reçoit effectivement, alors depuis 14 ans, on voit bien, on reçoit des résidents de plus en plus dépendants, puisque l'État a mis pas mal de choses en place pour vieillir le plus longtemps possible chez soi, notamment avec le portage des repas, avec l'hospitalisation à domicile, avec les soins infirmiers à domicile. Donc effectivement, on voit maintenant les résidents arriver avec un âge déjà avancé, des pathologies avancées, une dépendance aussi avancée. Donc le travail n'est plus le même, la charge de travail n'est plus la même non plus.
Donc vous avez du personnel médical spécialisé, quoi.
Alors
pour le troisième âge, pour le quatrième âge maintenant, c'est ça?
Voilà, on est fortement médicalisé, puisqu'au total, il y a 49 salariés pour 69 résidents, ce qui fait un taux d'encadrement de 0,7 à peu près. Et donc avec une psychologue à temps complet, une psychomotricienne à temps complet, un médecin coordonnateur de la région, donc qui est gériatre, et médecin coordonnateur qui est salarié à mi-temps, donc le docteur Ducrot pour ne pas le citer. J'ai également une infirmière coordinatrice et hygiéniste qui est salariée à temps complet, 5 autres infirmières, 18 aides-soignantes, aides médico-psychologiques. Puis j'ai des libéraux qui interviennent, notamment une kiné de Crépy-en-Valois qui vient 3 jours par semaine faire de la rééducation, puisqu'on a une salle de rééducation sur place.
Donc vous avez pas mal de personnes qui sont en attente d'avoir une place.
Alors, en attente, on vient de passer une période qui a été difficile pour nous, vous l'imaginez. Donc, voilà, on a des demandes. C'est vrai que l'activité reprend progressivement, puisqu'on avait des directives nationales qui ne permettaient pas d'accueillir pendant une certaine période, effectivement, de nouveaux résidents, ou en tout cas avec des contraintes qui étaient assez strictes. Et voilà, les familles étaient plutôt hésitantes et inquiètes pour faire admettre un de leurs proches dans les EHPAD.
Là, on ne peut pas éviter le fait de parler de la Covid quand même. Donc,
tout à fait. Donc,
comment ça s'est passé chez vous, quoi?
Nous, l'épidémie nous a touchés très tôt, puisqu'on est proche de Crépy, qu'on a pas mal de personnel qui habite aussi Crépy, en Valois. On sait que là, il y avait eu un tout premier cas en février. Mmh. On a des familles aussi qui habitent Crépy. Donc, effectivement, ils viennent dans notre établissement. Et on a préféré fermer l'établissement le vendredi, la veille de la fête des grands-mères, puisque la fête des grands-mères nous amène énormément de tout petit, du plus petit au plus grand, mais nous amène beaucoup de monde. Donc on n'a pas attendu effectivement le déclenchement des plans bleus, comme on appelle dans les EHPAD. Et on a fermé à partir de cette période-là, puisqu'on a eu déjà un cas, mais qui n'était pas diagnostiqué, et on a vu que ça partait un peu trop vite. Mmh. Donc voilà, donc depuis la fête des grands-mères, donc le 26 février, on a fermé notre établissement pour le rouvrir progressivement, donc au mois de mai, et donc effectivement, on a été assez touchés.
Comment ça s'est passé pour le personnel soignant?
Alors,
les masques, les gants, les blouses.
Voilà, on avait tout ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. On avait un stock pour un mois à peu près, avec dans le cadre du virus H1N1. Ouais. Sauf que là, c'est parti tellement rapidement qu'en 15 jours, on avait épuisé le stock de un mois. Alors j'ai de la chance d'avoir des collaborateurs et des équipes qui ont tenu le coup, tant physiquement que psychologiquement, puisque sur la totalité de cette période de Covid, nous avons embauché, recruté en CDD qu'une seule personne juste pour un mois.
Il n'y a pas eu de retrait de personnel?
Alors, Alors si, effectivement, on a eu quelques membres de personnel qui ont été mis de côté dès le début de par une santé fragile qui ne permettait pas effectivement de les maintenir à leur poste. Mais du coup, on a fait en interne avec des remplacements, donc des heures supplémentaires. Alors le plus dur, ça a été de trouver effectivement, bon, déjà de tout organiser, mais encore une fois, toute mon équipe était là avec moi, et j'en remercie en direct s'ils m'écoutent, en tout cas. Le plus dur, ça a été de trouver du matériel.
Ah, oui.
L'ARS, effectivement, nous a transmis, mais longtemps après le début pour notre établissement, on nous a transmis effectivement des masques. On a fait, alors après, voilà, tout le monde était un peu dans le même cas. Mais nous avons un directeur général, un gérant qui a mis tout en œuvre pour même le week-end aller parcourir toute la région pour aller trouver des fournisseurs. Je remercie notamment, il y a des associations, des intermarchés, pas mal de gens qui nous ont aidés, notamment dans le matériel, tout au début avec les masques FFP2. Notamment, il y a un intermarché qui nous a appelés pour savoir si on voulait tout leur stock de masques FFP2, qui était pour nous très important, puisque ça nous protégeait énormément pour nos cas Covid qui étaient confinés en chambre. Ils sont venus rapidement en voiture nous donner tout ce qu'ils avaient. Donc voilà, on remercie également, ça nous a fait chaud au cœur, tous les enfants de l'école d'Auroy qui régulièrement, par l'intermédiaire de leur institutrice, la directrice, nous ont transmis par mail tous les dessins, tous les messages qu'on a collés partout sur les murs de l'établissement. On remercie également des parents d'élèves qui nous ont transmis des gâteaux qui ont été faits pour le personnel. On a eu également, de la part de familles, on a eu des pyramides de bonbons Haribo, sans les citer. On a eu des pizzas qui nous ont été offertes également, des cartons de champagne. Donc tous ces petits gestes des enfants, des adultes, nous ont fait chaud au cœur et nous a motivés effectivement pour continuer.
Donc tout le monde est au régime maintenant là.
Alors maintenant on est au régime, on a tous pris 2 ou 3 kilos, l'été arrive, la période difficile est passée, en espérant qu'il n'y ait pas de regain effectivement de l'épidémie.
Et donc un petit mot pour dire comment ça se passe la réouverture avec les familles et tout?
La réouverture s'est faite progressivement. Alors, on a la chance au niveau de l'architecture d'avoir un sas à l'entrée avant d'arriver au secrétariat où on a des portes-fenêtres en verre qui nous a permis de recevoir les familles avec des masques, bien évidemment, avec tous les gestes barrières qui étaient préconisés par notre hygiéniste, et de mettre en arrière-plan, derrière les vitres, les résidents. Et dès qu'on a pu faire ça, effectivement, on a fait des visites à ce niveau-là. On a mis des moyens en place aussi pour éviter cette coupure du lien social des résidents avec leur famille. Notamment, on a mis tout ce qui est visio-communication, donc sur tablette. Donc, on a fait notamment beaucoup par WhatsApp. Donc, ça a très bien marché, puisqu'on a des familles qui sont à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis. Donc, il a fallu aussi se caler sur les horaires, donc soit tard le soir, tôt le matin. Donc, voilà, mais ça a permis pour eux d'être rassurés, de voir que, voilà, ils étaient bien, que le lien social n'était pas coupé. Donc voilà, on a essayé effectivement d'écrire très régulièrement par mail et également à toutes les familles au fur et à mesure que des décisions étaient prises au niveau de la région, et puis les décisions qu'on prenait de façon collégiale dans l'établissement avec le médecin, avec la cellule de crise Covid de l'établissement.
Merci.
Donc voilà.
Merci Sandrine. Juste une question.
Oui.
Pourquoi la Valouise? Pourquoi ça s'appelle comme ça?
Alors la Valouise, ça n'a pas été fait au hasard. C'est le propriétaire, le gérant, monsieur David Assouni, qui avait choisi ce nom. Alors d'après ce que je sais, puisque je ne connais pas toute l'histoire de la Valouise, mais ça prenait 2 L auparavant, la Valouise. Et c'est une vallée qui se trouve dans le parc national des Écrins dans les Alpes. C'est une vallée soi-disant très accueillante. Donc il a voulu donner ce nom, je crois, à l'établissement.
Voilà. Oui, c'est mieux que les bruyères ou les choses comme ça, dont on a l'habitude d'entendre.
Voilà, tout à fait, tout à fait.
C'est plus sympathique, je trouve.
Voilà.
Eh bien, merci de votre intervention, Sandrine.
Ben de rien,
Sandrine
c'est,
Brun,
moi, qui,
donc,
c'est moi qui vous remercie.
Alors, il y a des gens qui vous applaudissent, c'est beau quand même. Hein.
Oui. Merci,
donc, directrice de l'EHPAD résidence La Valouise de Rouy.
Voilà. Merci à vous.
C'est l'été des possibles.
Voilà, je précise, on a aussi mis en place un micro pour le public, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, et je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir pour nous parler de petites anecdotes sur Rouy. Je crois que c'est monsieur Jean-Louis Antonique, un habitant de Glaigne, donc un voisin. Ah. On va l'inviter à venir 2-3 minutes. Ah, oui. Donc c'est un monsieur qu'on connaît à la radio, hein, il me semble bien, hein, donc voilà. Hein. Et en plus, on va aller à Glaigne dans peu de temps, hein, donc on oui, l'annoncera un peu plus tard.
Le 28.
Voilà, donc on a déjà les infos qui tombent, c'est formidable. Alors, Jean-Louis Antonique, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Donc, vous avez des anecdotes sur Rouy.
Des anecdotes. En fait, la présidente du comité des fêtes de Rouy n'a pas eu le temps de citer l'histoire de,
des fêtes. Oui, on fait un petit peu de bruit.
Fêtes,
hein,
c'est des fêtes à Rouy. Petit ajustage micro. Voilà, donc, on ne pouvait pas évoquer... l'histoire des gros genoux, sans évoquer la fête patronale qui avait comme principale attraction ce qu'on appelait la zouaille. Alors la zouaille, c'est quelque chose d'assez horrible. Imaginez deux perches, on tend une corde entre les deux perches, on y accroche un panier d'osier. Dans le panier d'osier, on fait un trou dans le fond, et dans ce panier d'osier, on enferme une oie en laissant dépasser le cou de l'oie à l'extérieur. Bon, jusque-là,
ça va.
Ça va,
ça va. Alors, se dégrader, je le sens.
On maintenant, mal. On va jouer, et tous les habitants d'Henri mettaient un point d'honneur à jouer. Alors, ils avaient une chance, on leur confiait un sabre, on leur bandait les yeux. Ils devaient se diriger, aidés éventuellement par les collègues, vers le panier suspendu et couper avec le sabre le cou de l'oie. Oui. Je ne sais pas si vous imaginez bien ce que ça pouvait faire. C'était quelque chose d'horrible, si bien que très rapidement, on avait pris la précaution de tuer l'oie avant de l'enfermer dans le panier. Mais je suppose que...
Oui. Enfin, ça ne changeait pas grand-chose à son destin. Hein,
dans le passé plus lointain, ça devait être plus simple.
Horrible.
Et ce n'est pas si évident que ça. Il y avait beaucoup de concurrents. Et celui qui, enfin, arrivait à décapiter l'oie, emportait le panier garni, et l'oie en particulier, la pauvre bête.
Oui.
Voilà. Voilà, hein. Super.
Voilà, donc ça, c'était à la fête patronale. Ça se trouve au mois d'août, je crois, à Rouy. Et bon, bah, la zouaille, ça a disparu, je ne sais plus, à la fin des années 80.
Ah, donc et c'est puis, pas si vieux que ça, alors oui.
Non, non, c'est pas si vieux que ça. Moi, j'ai participé. Bon, je ne suis pas plus fier que ça. Je n'ai pas fait de mal à la bête, vous inquiétez pas.
D'accord.
Bon,
d'accord.
On éloignait aussi tous les...
Les enfants, peut-être.
Tous les âmes sensibles. Bah, les âmes sensibles.
Ma foi, surtout les curieux, parce que quelqu'un les yeux bandés qui manie un sabre...
Oui, ça peut être dangereux.
Un peu dangereux, voilà.
C'est pour ça que la population d'Orly a baissé à un moment donné.
Je pense, oui. Il y a peut-être un rapport, effectivement... Et tout ça se faisait autour du café d'Ancigne qui se trouve pas loin sur la place, là, et qui était, bah, comme dans beaucoup de villages, l'âme du pays, quoi. Avant que... Il y a eu également aussi, là où se trouve, vous venez d'évoquer la Valouise, sur le site de la Valouise, existait par le passé un café-restaurant qui s'appelait La Baraque.
Oui, c'est ce que tu as évoqué.
Il y avait donc un dancing assez réputé à La Baraque, où se retrouvait la jeunesse d'Henri, de Crépy et de Béthisy. Et ça donnait lieu à des batailles rangées entre jeunes qui se terminaient dans l'automne toute super. Proche. Voilà.
Ça dégrisait, c'était le...
Et anecdote aussi, à la baraque, un accordéoniste très célèbre y a fait ses débuts, André Verschuren.
Ah, bien.
Qui, qui habitait pas loin, enfin ses parents habitaient pas loin à Levignan. Non, je vous dis des bêtises, à Vaumoise.
Voilà. Très bien. Bah, merci Jean-Louis. Merci pour toutes ces anecdotes.
De rien.
Et on se voit bientôt alors.
À bientôt alors.
Voilà, le 28 juillet, donc à Glaigne. Voilà, prenez déjà rendez-vous. Merci. Alors, on va accueillir maintenant Marion Roux-Durand.
C'est l'été des possibles.
Allez, petit nettoyage des micros, petit nettoyage des casques, voilà, pour accueillir Marion dans les meilleures conditions possibles. Donc Marion Roux-Durand, qui est connue quand même à l'antenne, puisqu'elle participe à des émissions avec notre collègue Frédéric. Bonsoir Marion.
Bonsoir.
Ça va ?
Ouais. Ça va bien.
Ça va. Bah, et pour changer, on va parler d'archerie, c'est incroyable. Hein.
Oui, mais ça me poursuit.
Hein. Ah, c'est un truc de fou quand même. Voilà. Ouais.
Marion, tu es directrice du musée d'archerie du Valois.
Oui, à Crépy-en-Valois.
Voilà. Et donc, tu es là ce soir pour parler aussi de la compagnie d'archerie qu'il y avait à Rouy. Ouais.
Oui, alors...
Marion est habitante de Rouy,
Elle est habitante de Rouy, depuis assez peu, mais...
Oui,
elle est habitante
je suis une nouvelle aussi. Venue. C'est voilà. Vrai que ça fait deux ans qu'on a...
J'ai installé au bureau de poste.
Et un an, voilà. Exactement. Où beaucoup de gens ont des souvenirs, d'ailleurs, dans le village.
Donc, il y avait une compagnie d'arc.
Il y avait une compagnie d'arc à Crépy, effectivement.
À Rouy.
Oh oui, pardon, à Crépy aussi.
Hein. Oui, un peu partout. On va y venir après. Hein.
Dans tous les, en fait, comme dans beaucoup de villages de la vallée de l'Automne, du Valois en général, c'est vrai qu'on sait que la région est une terre d'archerie. Et chaque petit village avait son jeu d'arc et avec des compagnies qui étaient bien garnies, puisque c'était souvent le seul loisir de village. Et là aussi, c'est un lieu de sociabilité très important. Et la compagnie d'arc d'Orouy, on en trouve des mentions au XVIIIe siècle. Il y a eu notamment des concours qui ont été tirés et comme toutes les compagnies d'arc et tous les regroupements, tout a été dissous à la Révolution française et la compagnie de Rouy a été reconstituée en 1805, ce qui lui donne déjà une belle ancienneté. Il existe un registre, on a encore des documents, des objets, des œuvres qui sont conservées au musée de l'archerie, notamment le premier drapeau de la compagnie qui a été fait en 1835. Donc c'est un drapeau tricolore sur lequel est peint une effigie de Saint-Sébastien. Donc c'est assez classique comme iconographie, mais il est conservé au musée avec des assiettes, des souvenirs, des affiches, des différents bouquets provinciaux qui ont été organisés. Donc c'était un jeu qui était assez actif hein, avec des membres qui étaient vraiment mobilisés.
Donc, comment ça marche ? Ça marchait comme un championnat ? Il y avait d'un village contre un autre ou des choses comme ça ou...
Alors, il y avait plusieurs types de compétitions. Ouais. Déjà, à la base, c'est vraiment le lieu de sociabilité par excellence, c'est-à-dire que c'est là où les hommes se retrouvaient, petit à petit les femmes aussi, parce que c'est vrai que le tir à l'arc a toujours été assez ouvert.
Mais
quand
c'est
même,
issu de la chasse, par exemple, le tir à l'arc, c'est issu de la
pas
chasse ?
Pas forcément, non, pas forcément. C'est plutôt issu des entraînements de tir. Il y a eu des milices qui ont défendu souvent les bourgs, et dans le nord de la France, c'est vraiment ce qui est caractéristique. Et puis, petit à petit, le tir à l'arc est devenu obsolète avec l'apparition des armes à feu. Et les milices ont continué d'agir et puis d'avoir certains privilèges aussi. Donc on leur donnait souvent des terrains, des terres pour y construire des jeux d'arc et pouvoir s'entraîner. Et puis c'est devenu un loisir. Et la notion de loisir a vraiment pris tout son sens au XVIIIe siècle. C'est aussi ce qui faisait que le village se rencontrait et c'était un lieu de mixité. Souvent, le notable local, et là en l'occurrence c'était le comte Doria, était le connétable de la compagnie. C'est-à-dire qu'il était chargé de doter la compagnie, soit de terrain, soit d'argent pour pouvoir permettre à la compagnie de fonctionner. Et les différentes personnes du village se retrouvaient ici pour s'affronter. Alors, s'affronter amicalement. Alors, il y avait des tirs organisés qui rythmaient toute l'année, comme ça existe encore. Hein, la Saint-Sébastien, en janvier, le jour de le Saint-Patron des archers. Ouais. Le tir du roi, qui permet d'élire un membre de la compagnie comme roi. Si on est roi trois années consécutives, on devient empereur. Et donc, il y a un empereur à Rouy, hein, monsieur le maire, qui reste quand même dans les annales, parce que c'est assez rare comme, comme exploit. Et puis, on, les compagnies d'arc peuvent participer à ce qu'on appelle le bouquet provincial, donc qui est la grande fête traditionnelle de l'archerie, qui, une fois par an, réunit près de 3 à 4 000 archers. Et qui est reconnue depuis 2016 en tant que patrimoine immatériel au niveau national par le ministère de la Culture.
Donc à chaque fois, c'est un village qui organise ça ?
Alors ça peut être un tout petit village, ça peut être une grande ville, mais effectivement, ça change tous les ans. Alors, à l'origine, c'était organisé dans un périmètre plus restreint puisque la tradition voulait qu'on puisse faire l'aller-retour dans la journée à pied. Ah. Donc c'est vrai que là, c'est ce qui déterminait ce qu'on appelle une ronde, un périmètre dans lequel les compagnies se déplaçaient. Et puis petit à petit, elles sont venues de plus loin. Et à l'heure actuelle, c'est une ville qui l'organise, mais ça peut être dans différentes régions. Là, cette année, ça aurait dû être à Gisors, par exemple. L'année d'avant, c'était à Braine-le-Château. Donc ça change tous les ans. Il y en a eu aussi à Paris, avant. Voilà.
Et pourquoi il y a autant de compagnies d'arc dans l'Oise ?
Parce que c'est vraiment le sport ou le loisir local, comme on peut trouver le foot en Méditerranée, on trouve le tir à l'arc dans le nord de la France. C'est vraiment quelque chose qui structure aussi les villages.
Parce que dans d'autres régions de France, il n'y a pas ça, quoi.
On en trouve aussi, on en trouve des traces quand même, mais c'est plutôt, c'est vraiment le nord de la France. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un renouveau et il y a un essaimage quelque part des compagnies d'arc, puisque une compagnie d'arc peut être créée par le patronage de deux autres compagnies. Donc actuellement, il y a des recréations de compagnies et puis des compagnies toutes nouvelles qui ont 20 ans, par exemple en Aquitaine, mais qui croissent rapidement et gagnent en importance très rapidement.
Alors, il y a les compagnies d'arc aussi, mais on peut tirer aussi l'arbalète.
Alors, alors, actuellement, non. L'arbalète est plutôt rattachée aux jeux de tir comme les armes à feu. Ça a plus de rapport en termes de précision, d'épaulement avec les armes à feu. Mais ceci dit, au musée de l'archerie à Crépy-en-Valois, on présente aussi des arbalètes. C'est des armes de trait. Donc, c'est vrai qu'autant au Moyen-Âge, on appelait ça les armes de trait et arc et arbalète étaient très liés. Actuellement, c'est beaucoup dissocié quand même dans la pratique.
Alors pour élargir un peu à la région, donc le musée de l'archerie du Valois, qui est à Crépy.
Oui.
Et c'est un musée européen, d'importance européenne.
Alors c'est un musée qui est labellisé Musée de France, donc avec des collections publiques assez importantes, qui est le plus grand musée d'Europe consacré à cette thématique. On a près de 7000 objets ou lots d'objets, et donc qui couvre différentes thématiques, l'apparition de l'arc à la préhistoire, les arcs dans le monde, la pratique justement traditionnelle dont on vient de parler pour Orwy, et puis la pratique olympique et sportive qui a toujours cours.
Il y a des partenariats avec d'autres pays ?
Oui, évidemment, on se rapproche des différents pays, des différentes pratiques. Récemment, avec la Belgique, nos voisins directs, l'Allemagne, les États-Unis aussi, qui a une très grosse collection dans le Missouri, et la Corée.
Voilà. Parce que pour moi, les arcs et les flèches, c'est les Indiens. Donc, c'est les États-Unis.
Et malheureusement, c'est ce qui reste dans l'imaginaire, mais ce sont les objets qu'on a le moins, parce qu'ils ont été complètement brûlés, ils ont été complètement... On conserve très très peu d'arcs amérindiens ou d'indiens natifs.
Tu es allé déjà dans un musée aux États-Unis, non ?
Oui, je suis allée voir la Grayson Archery Collection dans le Missouri, à Columbia. Ouais. Qui est la deuxième grosse collection. Enfin, c'est notre collection jumelle, en fait. Ce sont les deux grosses collections, les deux plus grosses collections publiques au monde.
Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils viennent au musée ? Pour les attirer ?
Déjà que c'est vraiment un patrimoine unique, que c'est aussi un patrimoine vivant et qu'on s'efforce justement de le faire vivre au travers de nombreuses activités. Alors actuellement, on est un petit peu comme tout le monde, en mode plus restreint, mais il y a des visites guidées qui sont organisées tout l'été, des ateliers pour tous les âges aussi, et puis de nombreux événements qui sont concentrés sur 7 mois d'ouverture, mais qui permettent à tout le monde de voir de manière renouvelée les collections avec une approche à chaque fois différente.
Et puis il y a une compétition aussi normalement, avec des armes qu'on fabrique soi-même.
Oui.
Juste comme ça.
Le championnat européen de tir aux armes préhistoriques. Voilà, ouais. Ça, c'est à voir. C'est à voir pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'effectivement, ça a 30 ans. C'est la 30e édition cette année. Ça devait avoir lieu en avril. Ça a été reporté les 10 et 11 octobre. Et là, on peut même participer. La seule condition, c'est de fabriquer soi-même son arc, ses flèches ou son propulseur. Mais on peut venir assister tout simplement ou s'initier, puisqu'on organise aussi des initiations au tir au propulseur notamment. Et non, c'est très chouette à voir, et c'est aussi un moment où on rencontre des passionnés, des historiens qui ne sont pas professionnels, hein, mais des gens qui font l'effort de reconstituer, de s'intéresser à cette thématique et qui ont très envie du coup de transmettre ces notions, ces informations-là.
Merci Marion. D'autres questions, Hervé ?
Non, ça va.
Ça va aller ?
Ça va aller. Le musée est ouvert ?
Alors, le musée est ouvert le 3 juin. Ah. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir des visiteurs tous les jours. La fréquentation reprend. Alors, pas de groupe scolaire. Par contre, jusqu'à 10 personnes peuvent venir. Et encore une fois, les activités reprennent peu à peu cet été et reprendront, je l'espère, pleinement à partir du mois de septembre.
Donc, venez masqués pour l'instant, alors ?
Alors, on a l'obligation d'accueillir les gens masqués, mais ça ne nuit pas. On fait en sorte que ça ne nuise pas au plaisir de la visite.
Très bien. Très bien. Merci, Marion.
Merci Marion.
Et bonnes vacances, alors.
À bientôt.
Bravo, merci.
C'est l'été des possibles.
Voilà, donc on en profite pendant ce temps-là. Catherine s'affaire à changer les films sur les micros. Ça rigole pas, hein. C'est tout un travail d'équipe, hein. Voilà. Et ça découpe, et ça coupe, et ça remet, et ça refait. Et voilà. Donc, vous avez vu, il est 19h et on est toujours à l'antenne. Hein, donc, on va déborder. Hein.
Ah oui,
on s'autorise un petit moment. On est bien en rue.
On est bien, hein, là. On est fait bien, beau, oui. En fait.
Voilà. Donc, on en profite. Hein. Alors, on a encore d'autres invités qui doivent arriver. Hein. Donc, on attend nos invités. Est-ce qu'ils sont arrivés, nos invités ? Ah, je vois quelqu'un derrière moi. Alors, vous, les auditeurs, vous ne pouvez pas le voir, hein, mais c'est un monsieur assez impressionnant.
Oui.
Voilà. Installez-vous, monsieur, installez-vous. Bonsoir.
Alors, bonsoir. Je tiens à remercier Jourdain, De Chornia et Machet de m'accueillir avec une telle prestance, une telle présence. Non, c'est formidable.
Excusez-moi, monsieur, vous êtes qui ? Vous n'êtes pas présenté.
Alors, je suis Gontron et je fais la rubrique « Elle s'invite ».
Très bien.
Hein, voilà. Donc, c'est parti. On y va. Alors bonjour Orwi, ici Gontran pour notre rubrique « Elle s'invite ». Le principe, c'est très simple, elle entre sans frapper et s'incruste jusqu'au cœur du sujet. Aujourd'hui, nous parlerons d'Orwi et de ses 2000 ans d'histoire. C'est, je vous l'accorde, un vaste sujet qui s'étend et qui s'étire largement sur le plaid à carreaux du temps qui passe. Mais ne prenez pas vos oreilles pour des jambes qui se pendraient à votre cou, car, chers auditeurs de Radio Valois-Mulsien, nous n'allons pas, bien que le défi soit tentant, nous n'allons pas dérouler devant vous le tapis historique, que dis-je, la tapisserie de ce beau petit village d'Orwi. Non. Non, nous allons au contraire nous intéresser à ce petit point noir de l'histoire. Nous allons tenter de le paresser, de le sortir de son port, afin de vous le faire admirer. Je vous invite donc à monter dans notre machine à remonter le temps et allons ensemble à Orwi il y a 2000 ans, somme toute les années 20. Hein, les années 20, Jésus-Christ, donc fils de Marie de Magdala et de Joseph de la Charpente, fait sa crise de foi au bord du fleuve Jourdain. Ponce Pilate se lave les mains et la France n'existe pas encore en tant que telle. Elle ne possède qu'une, voire deux variétés de fromage, s'appelle la Gaule, et se torche la gueule avec l'Empire romain. Mais à Orwi, que se passe-t-il ? Alors il faut vous imaginer, hein, chers auditeurs, ces rues en terre battue, ces masures en toit de chaume, les hommes sont aux champs et vont au rythme des bœufs, tandis que les femmes bavardent au lavoir, font le frichti et s'engueulent en patois sur le pas de la porte. Les enfants, eux, ils bagnaudent de-ci, de-là, pratiquant l'art de la rapine de fruits, font des courses à d'autres gorées quand ils ne coursent pas les poules à coups de bâton. Ah, les petits cons, sont-ils pas mieux aujourd'hui devant leurs jeux vidéo ? Je vous le demande un peu, non ? Mais, chers auditeurs, parmi eux, il en est un peu moins sale sur lui, un peu moins con que les autres, un petit génie en quelque sorte qui observe la nature, pour essayer de créer quelque chose de ses propres mains. il s'appelle Peugeot parce qu'on le voit peu jouer Peugeot. Il est à l'écart, il observe et il bricole. Oui, il bricole dans la grange crasseuse à son père, que l'on appelle Peugeot, parce qu'il s'occupe de son jardin. Peugeot comme jardin, jardin, voilà. Le petit Peugeot, lui, travaille dur, il fait des essais. Il a une idée. Cette idée, c'est d'aller plus vite d'un point A jusqu'à un point B. Exemple, Orouy-Béthisy en 2 heures, hein, c'est son rêve. Et pour faire court, il finit par créer, après 103 essais, tenez-vous bien, 103 essais, une sorte de véhicule un peu bizarroïde, avec deux fourches, deux rondelles de bois de bonne taille, qu'il relie grâce à différentes pièces de bois, ainsi qu'un joug à bœuf pour conduire sa création. Joug qu'il a piqué à son grand-père, le père Peufiole, parce qu'il picole. La 103 Peugeot vient de naître, ou les 103 essais du môme Peugeot, le fils de Peugeot, petit-fils de Peufiole. Ainsi l'histoire, mesdames et messieurs, de ces hommes qui pendant 2000 ans rentrèrent bourrés en mobilette, commença ici, dans ce petit village charmant du Valois. Des pièces de bécane de toute époque ont d'ailleurs été retrouvées dans les fossés entre Orouy et Béthisy par de nombreux archéologues. Mais ce soir, elle nous vient de loin. Remontant les couloirs de l'histoire à deux roues, elle pétarade, elle sent l'essence mélangée à l'huile de vidange. J'ai le plaisir de recevoir ici à Orouy ce soir Muriel Peugeot, la 103e génération de Peugeot d'Orouy. Bravo Muriel. Bravo. On l'entend qui arrive. On l'entend, elle ne va pas tarder à arriver, c'est Muriel qui bien sûr nous arrive en Peugeot. C'est formidable, c'est formidable. Et elle s'invite. La voici, la voilà, Muriel.
Bonsoir Muriel.
Bonsoir.
Bravo. Installez-vous Muriel, installez-vous. Alors, bonjour Muriel.
Bonsoir.
Muriel, vous êtes la descendante directe du petit Peugeot d'Orouy. Vous êtes la 103e génération de Peugeot d'Orouy, ça fait quel effet?
Bah, ça me fait de l'effet, hein, d'être à part.
Déjà.
Et j'en suis fière comme un bar tabac. Mon arrière, etc. grand-père serait aux anges de me voir rouler en 103 Peugeot. Allez, 103 Peugeot, c'est une merveille de bécane, un petit bijou de moteur. C'est le cœur qui bat de mon grand-père.
Quel moment d'émotion tout de même, Muriel, votre grand-père. En effet, mais dites-moi, vous avez déjà conduit une bagnole?
Ah bah non, alors.
Ah non?
Vous n'êtes pas prêt de me voir circuler en bagnole. On crève de chaud dans ces coucous. Il y a notre odeur qui stagne et on gueule à tire-larigot. Alors, comme mobilette, on profite. On est grisé par l'air de l'été, séché par le vent d'hiver. La pluie vous caresse et vous coule dans dos comme une amie intime. Et on a le temps de voir les pâquerettes au bord de la route.
Vous êtes donc, on peut le dire, Muriel, une mobilettophile convaincue et convaincante.
Bah, y a de quoi. J'anime un club de meules et j'en suis la présidente.
De meules.
On est 103 exactement. Pas une de plus, pas une de moins. Je peux vous dire que quand on part de Rouy et qu'on déboule à Béthisy, les volets se ferment et on entend une mouche huilée.
Une mouche huilée, carrément. Mais comment s'appelle votre club, Muriel?
Les Valkyries rugissantes d'Orouy.
Les Valkyries rugissantes d'Orouy, mais alors pourquoi ce nom?
Bah parce que Val, car nous sommes toutes de la vallée de l'automne. Mm-hmm. Kiri, ben, Kiri, Kiri est là.
Ça, faut s'en souvenir.
On est de cette génération. Et rugissante, c'est parce qu'on lance un cri avant de partir.
Alors, ça donne envie, évidemment, Muriel. Mais une dernière chose. Il paraît que vous imitez le moteur 49.9 à la perfection. Pourriez-vous le faire pour nos auditeurs du 93.7?
Ben, j'ai mieux pour les auditeurs. Je vais faire les deux. Hein? Alors attendez, j'arrive.
Alors je suis Muriel qui va nous faire et le cri et à la fois quelque chose de tout à fait improbable, ah, sans doute.
Moteur, hein? Et mon cri de ralliement, hein, c'est « Oh oui! Oh oui !»
C'est formidable! On applaudit bien fort! Merci Muriel!
Incroyable. Bah, elle fait super bien le bruit de la 103. Hein.
Vous avez vu?
Ouais, impressionnant.
J'ai invité, ouais. Je dois dire, qui dépassent l'entendement. Non,
merci la troupe des Baudelaire.
Je laisse la place. Merci, voilà, merci messieurs.
Bravo à vous. Et ben moi justement, je voudrais recevoir Luc Dossy, parce que Luc Dossy, il est important dans ce sketch.
Bien sûr. Hein? Il est à l'origine de ce sketch, à mon avis.
On va dire. Luc, bonsoir.
Le temps de mettre un petit film.
Voilà, on va te changer le film du micro.
Le film du micro.
Oui. Et comme Gontran a bavé dedans, vaut mieux changer. Hein. Donc,
voilà.
Donc Luc, alors, tu as participé à ce sketch?
Oui, enfin...
Tu as prêté les accessoires nécessaires,
voilà, le matériel.
On a prêté une mobilette à la petite filleule de la famille Peugeot.
Donc, avec alors, sa molle, ça fait du foin. Hein.
Ah bah, oh, bravo. C'est clair. C'est en pleine moisson en plus, donc voilà. Alors Luc, tu es habitant de Rouy depuis combien de temps?
Alors maintenant, on est arrivé en 98 dans le village, donc ça fait déjà quelques années. Quoi.
22.
Comment?
22.
22 ans, voilà.
Qu'est-ce qui t'a amené ici?
Qu'est-ce qui m'a amené ici? Ben, je ne sais pas. En fait, c'est ma femme qui était native de Crépy. Et on habitait sur Paris en cela, puis on voulait quitter Paris parce que trop de bruit, trop de tout, trop énervant. Donc on est venu habiter à côté de Crépy, puis j'avoue qu'à Rouy, on s'est senti tout de suite bien. Quoi.
Donc tu as un gîte?
On a un gîte, on a ouvert un gîte.
Tu as un gîte, et en plus de ça, tu fais des
balades.
Voilà,
donc en 2018, on a décidé, pour apporter une petite activité au plus au gîte, de faire des petites balades autour de la vallée de l'Automne, dans le Valois, et même maintenant, on fait des nouvelles balades, on va bien plus loin. On va jusque la Ferté-Minon, on peut aller à Senlis, voilà.
Tu fais des balades d'une demi-journée ou d'une journée?
Alors,
en Peugeot 103.
C'est ça, en Peugeot 103, on part à la demi-journée. Donc, mais sinon, si les personnes ont envie de faire une balade à la journée avec un thème bien spécifique, on s'adapte. Tout est possible.
Donc tu ne mets pas deux jours pour faire Rouy-Béthisier quand même, ça va?
Non,
ça
non,
s'améliorer
non,
maintenant.
Voilà, 10 minutes, un quart d'heure, allez, un quart d'heure.
Ça, ça va vite, oui.
Oh, deux jours, c'est peut-être pour aller à Dunkerque.
Hein? Ah oui, parce que tu es originaire de Dunkerque.
Ah oui,
hein. Ah, on se disait cet accent, mais il vient de où? Voilà.
Donc tu n'as que des Peugeot 103.
Oui,
on t'as fait une fixation là-dessus.
Ouais, en fait ça c'est des années jeunesse en fait, hein, quand on était gamin sur Dakar. Alors il y avait les motobécanes et les Peugeot, ben, nous on préférait les Peugeot parce que dans les dunes et sur la plage on roulait plus vite, elles sont moins lourdes.
Parce que les Peugeot 103 ça date des années 70 quoi.
Oui, j'en ai une de 77, 78, oui, c'est ça.
Ça a commencé en 71
je crois. Ouais, 70, 71 je pense. 71,
ça a commencé en 71.
Puis ça
s'est terminé quoi,
en 2017.
2016,
2017, voilà. Les dernières Peugeot fabriquées, les 103 ont été fabriqués en 2017.
Et pour en avoir maintenant, c'est difficile?
Non, 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 au contraire, sur le bon plan, on en trouve encore fréquemment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de trésors dans les granges françaises. Quoi.
Ah, oui, ouais, mais des trucs, des mobilettes en état de fonctionner?
Oui,
on en trouve
encore. On trouve tout. On trouve tout, on peut trouver des bijoux, ouais. Et il y a encore des bijoux qui traînent dans les granges. Quoi.
Donc tu chines de temps en temps pour trouver des pièces?
Oui, c'est ça, mais ouais, c'est ça. On fait des bourses aussi pour retrouver des pièces.
Ouais, c'est ça.
Mais on... Aussi, y a
on trouve encore des pièces.
Oui, sur Internet, on trouve encore tout. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait plus de petits dépositaires, de petits magasins. Sur le net, on trouve encore tout. Au moins, ça nous permet de les réparer et de les mettre correct, de les faire correct pour pouvoir rouler. Quoi.
Alors, parle-nous un peu des circuits que tu fais alors.
Alors, celui que je préfère, enfin non, il y en a
on
trois que
d'Orly.
Je préfère.
On part d'Orly.
Et puis, on tourne autour de Pierrefonds, en fait. On part d'ici, on va sur Morienval. De Morienval, on va à Reuteuil. De Reuteuil, on va sur Chelles, Hautefontaine. Le Crotoy. Après, si on peut faire, on peut partir par Attichy ou pas. Si on n'y va pas, on redescend vers Vieux-Moulin. Et de Vieux-Moulin, on fait une boucle à ce Pierrefond.
Alors, moi, j'ai eu la chance de le faire. Hein,
je vois.
Et donc, j'ai une petite anecdote. C'est formidable parce que Pierrefond, c'est un lieu de rassemblement des motards. Et je dois dire que quand on arrive en mobilette, il y a 200 motards et nous, on arrive en mobilette. Mais on a plus de succès que les motards. Ouais. C'est commun d'avoir une moto à Pierrefond. Mais quand on arrive en 103 Peugeot...
En plus, 6-7 meules...
Ah, 6-7 meules, ça c'est formidable.
Le gang des Peugeot est là, voilà. Des Peugeot 103.
Ouais, ouais, non, mais c'est encore d'actualité. Hein. C'est encore bien d'actualité. C'est vrai que quand on a 5-6, les gens regardent et puis en fait, ils nous lèvent le pouce parce qu'ils sont trop contents. Ils se remémorent ces années jeunesse. Et, voilà, parce que tout le monde, beaucoup de personnes ont eu ces moupettes, ces motocyclettes entre leurs mains, quoi.
Tu as choisi des circuits qui sont un peu en dehors quand même des routes fréquentées.
Complètement.
Hein, pour les mobilettes.
C'est pour ça que ça m'a pris pas mal de temps à les préparer parce que je ne voulais pas, en ayant des personnes avec moi, il faut les mettre quand même en sécurité. Donc en fait, on a trouvé un maximum de voies communales. Enfin, on utilise beaucoup les routes que les agriculteurs prennent pour aller dans leur champ. Voilà.
Okay.
On peut faire 20 km sans voir un seul panneau. Les gens me font confiance. Hein. De toute façon, s'ils ne me suivent pas, ils sont perdus. Hein.
D'accord.
Ah oui.
Voilà.
Et donc, une question technique.
comment, tu mets quoi comme essence dedans? Parce qu'il faut faire un mélange.
C'est ça. Donc ça, avant, hein, quand on était gamin, il y avait les pompes à 3, 4, 5, 6 %. Maintenant, c'est mort. Maintenant, on part sur une base de 98, d'essence 98, et puis on tourne à 3 % d'huile, dans le sens où les huiles, maintenant, sont de bien meilleure qualité qu'auparavant.
D'accord.
Alors, on peut aller à 4 %, mais 3 %, c'est bien.
Voilà. Alors, on peut commencer à quel âge?
Alors, le problème, c'est qu'en fait, les enfants, il faut qu'ils aient leur BSR. S'ils n'ont pas le BSR, ils ne peuvent pas monter sur mobilette, ni un 50. Hein,
c'est quoi un BSR?
Voilà. Ben, c'est un brevet qui est dur, il faut le passer donc, dans une école de conduite, en fait.
Ah, donc, ça, c'est au moins 14 ans, un truc comme ça, non?
Oui, je crois que c'est 14 ans. Je crois que c'est 14. Je sais plus l'âge, mais je pense que c'est la SR, c'est la SSR 1, c'est pas la même chose. C'est la même
chose. Belle intervention, Fred, merci. Ça nous a fait avancer chez le Blick.
Après, c'est jusqu'à...
Oui, après, dès que les personnes, il faut aussi le permis.
Ah oui, il faut avoir le permis de conduire.
Maintenant, avant, non. Hein, de notre temps, c'était beaucoup plus simple.
Ouais. Toutes les mobilettes sont immatriculées maintenant, c'est obligatoire.
Toutes. Tous les 50, hein, c'est pas que les mobilettes. Tous les 50 cm3 maintenant sont rendus immatriculables.
Très bien. Ouais,
c'est différent. Hein, c'est...
Un petit coup de téléphone ou un message sur le site
complètement.
De la Cerisée.
De la Cerisée, voilà.
Cerisée.
Voilà.
Hein, pas la Cerisée. La Cerisée. Mmh.
Ils sont où les cerises là? J'en ai
et
pas
donc, vu, on peut.
Bah, c'est fini, la saison est morte, voyons.
Donc, moi, je vous incite à aller voir sur le site de la Cerisée et puis essayer de réserver parce que ça permet de découvrir d'une autre façon
complètement
la région. Quoi.
Complètement différemment. Puis on voit des choses assez stupéfiantes.
Et on t'a fait venir aussi parce que ça rejoint un peu l'histoire quand même du Valois, parce que tes circuits permettent de découvrir en fait des choses qu'on ne voit pas en voiture. Quoi.
Complètement. Alors j'avoue qu'on ne reste pas complètement dans la vallée de l'automne, mais on l'utilise toujours pour partir, hein, parce qu'on fait des boucles de 60 qui peuvent être de 60 à 70 km. Donc, Donc bon, on commence, après on tourne autour du coin de Pierrefonds et on revient. Mais bon, en tous les cas, on voit toujours on va jusqu'à Emeville-V. On revient toujours par Saint-Jean-en-Bois et puis Chanlieu. Donc on voit de jolies choses, de très jolies choses, c'est sûr.
Un petit truc, là, la vitesse maxi en mobilette, t'as essayé de voir un peu?
Ouais, 45-50, bon, 55 de temps en temps aussi. Hein.
Ça,
après 60 aussi, hein. Bah, des fois après 150 aussi. Hein.
60. Non, parce que quand on a eu des mobilettes, on les a débridées ou des choses comme ça.
Celle-ci, non.
Celle-ci, c'est 45-50.
50-55, on va dire.
Ouais. Comme tu dis,
c'est pas mal quand même. C'est bien.
On voit le paysage autrement, quoi, c'est ça.
Et donc, tu fournis tout en plus de ça, le casque, les gants et tout.
Complètement. Voilà. Complètement. Petit sac à dos si personne ne le veut. Puis bon, on peut se balader. Bon, le Covid, il est là, mais bon, seul sur sa mobilette quand même. Bon, on a en roulant filadien à quelques mètres de distance. Donc, bon, c'est pas une mouche le Covid. Hein, donc, si on ne la prend pas, on doit. Normalement, hein, bon.
Merci Luc.
Ben je vous en prie.
Merci d'avoir donné un coup de main au Baudegis, hein, bravo.
Merci.
Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on écoute les musiciens parce que on les a entendus une seule fois, on va leur donner un petit peu de temps de jeu. Je vais juste commencer à faire de la promo pour la prochaine émission. Ouais. Donc vendredi 17 juillet, ça arrive bientôt dans deux jours, hein, on sera à Villers-Cotterêts. On sera à 14h, on sera de bonne heure. Hein. Voilà, on sera avec toute une équipe autour du Circus Virus, autour de la mairie de Villers-Cotterêts. On sera dans le quartier Vivière, voilà. Pour les gens qui connaissent un petit peu Villers-Cotterêts, soyez curieux, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus autour de ce studio mobile de RVM. Voilà, on cuisinera encore sur Villers-Cotterêts, notre recette de cet été.
Non, ça sera Circus Virus, donc on fera des numéros peut-être.
Et on fera du cirque, là.
Voilà, on fera du cirque.
Ça va être chaud, hein. Alors, Martial, Michel et Alix, le MMA est en place. Messieurs, vous allez nous interpréter quoi?
Vous avez déjà une idée ? On va faire un petit morceau d'Henri Salvador.
Oui.
C'est un morceau qui a été écrit par Gérald de Palmas. Donc, c'est parti.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sur la route de septembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coer. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Tulip paroupé, tulip de la loi. Du 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 bad du 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 du. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Yeah.
Donc, Martial, juste une question avant
qu'on se quitte.
Tu habitais à Ourouy?
Alors, j'habitais à Ourouy, oui, quelques années quand même. Moi, je suis arrivé, j'étais tout petit. Je suis arrivé en 69. Et en 69, j'avais 9 ans. Donc, tu vois, je suis resté jusque dans les années 80, mais voilà, voilà.
Donc, tu reviens aux sources?
Pas forcément, mais ça me fait plaisir d'être là.
Ouais.
Hein, voilà, tu sais que tu connais mon village, quoi, je veux dire.
Et voilà.
Mon village, voilà. J'aime beaucoup Ourouy, mais...
Et il a un nom, votre groupe, là? Vous avez votre association?
Ah ben non, on n'a pas de groupe. On a remonté en 2 secondes et demie. Hervé m'a appelé, m'a dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Hop, j'étais sur la route de la Bretagne. Je lui ai dit, mince, je me grattais la tête. J'ai dit, comment on peut faire? Bon, j'ai appelé des potes, et les potes, c'est Michel à la guitare. Hein. On peut les applaudir. Parce que franchement, c'est spontané. Michel à la guitare, Alix au percu. Ouais. Voilà, et puis c'était sur le pouce, quoi. Comme on aime le faire quand on a l'occasion.
Voilà, et pour les gens qui ont écouté l'émission de mercredi dernier à Nanteuil-le-Haudouin, Alix était présent.
Mais voilà.
Donc il nous suit.
Voilà. Forcément, comme il habite Nanteuil, c'est beaucoup plus simple.
C'était plus simple. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous. Hein. On va faire des remerciements, Hervé. Ah, oui. On va essayer d'oublier personne.
On va essayer.
On va commencer par Philippe et Frédéric Comer qui nous ont permis d'avoir l'énergie pour faire cette émission. Merci à eux.
D'avoir la liaison, oui.
En plus, voilà. On va remercier nos invités. Donc, on va remercier Marc Lafont, notre premier invité. On va remercier Marion Roux-Durand. On va remercier Sandrine Brun. On va remercier Luc Dossy, Martine Grénaud. Elle est accompagnée d'Isabelle, je crois.
Oui.
On va remercier la troupe des Baudogistes. On va remercier André, qui s'occupait d'écouter l'émission. Dominique, qui s'occupait de transmettre à la radio. Catherine qui recevait nos invités, Luc Fred. À la technique bien sûr, notre maître
et Fred, Frédéric
et
aussi Fredo à la technique
qui l'aidait, voilà. Toi Hervé, merci.
Et ben merci à tout le monde. Hein.
Voilà. Donc on rappelle le prochain rendez-vous.
Vendredi, 14 à 15 heures à Villers-Cotterêts.
Vendredi 17 juillet. Voilà.
17 juillet avec Circus Virus.
Entre autres. Et on aura d'autres invités.
Oui, bien sûr.
Allez.
Bien
sûr. On rend l'antenne au studio. Allez, à vous les studios.
Bonne
soirée. Au revoir, merci à vous.
l'été des possibles.
Qu'est-ce qui serait possible ?
De brancher sa radio et de mettre 93.7 sur RVM.
C'est possible ! On peut le faire !
Ouais !
C'est l'été des possibles !